Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition du jeudi 9 juin 2016 à la une ce soir.
Attaque meurtrière des Chebab contre les soldats éthiopiens de la MISOM en Somalie.
L'opposition congolaise toujours en conclave en Belgique pour accorder les violons contre Joseph Kabila.
Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara consulte les forces vives en vue de la modification de la constitution.
Nous reviendrons ce soir sur l'envoi de 2000 militaires tchadiens pour appuyer l'armée nigérienne dans la lutte contre Boko Haram.
Politique américaine, quel sera le rôle de Bernie Sanders alors que Hillary Clinton est assurée de l'investiture? Le président Obama a rencontré le sénateur du Vermont sans le faire changer d'avis.
Bien sûr, l'économie et les sports, juste après le journal.
Lutte contre Boko Haram, les soldats tchadiens dépêchés au Niger voisin ne sont pas encore arrivés. Et c'est ce qu'affirme le ministre nigérien de la Défense qui a toutefois démenti la prise de la localité de Bosso par les djihadistes. On écoute le ministre nigérien de la Défense, Masaoudou Assoumi.
Qu'on dise que les Boko Haram sont à Bosso, ça n'a pas de sens. Parce qu'il y a des hélicoptères en permanence, parce qu'on les détecte immédiatement. Et parce que nos forces sont là. C'est comme depuis hier, tous les grands médias internationaux étaient en train de dire que les Tchadiens sont arrivés à Bosso. Mieux, ils disent qu'ils sont 2000. Les Tchadiens ne sont pas rentrés au Niger, en tout cas pas encore.
Quand est-ce qu'ils seront là?
Je ne peux pas vous répondre. J'ai dit que nous avons décidé, dans tous les cas, de rester, les Tchadiens et nous, de rester protéger nos frontières à partir du nord du Nigeria. Nous espérons que l'armée du Nigeria remontera, parce que c'est ça qui est prévu. Nous protégerons nos frontières en y allant, pas pour revenir encore. Il faut nécessairement qu'il y ait un rideau entre notre ligne de défense et notre ligne de frontière.
Le ministre nigérien de la Défense, Masaoudou Assoumi. Sachez aussi qu'une nouvelle attaque a eu lieu hier à Kabalewa, commune située à 60 km de Difa. Il n'y a pas eu de pertes humaines.
À Brazzaville, les autorités ont rejeté le rapport de Human Rights Watch, le qualifiant de biaisé. Deux ministres, Thierry Mungala de la communication et Pierre Mabiala de la justice, ont annoncé que la justice congolaise a déjà pris des mesures à ce sujet. De Brazzaville, Gwelen Gousso.
Pour le ministre de la Justice Pierre Mabiala, le Congo s'est depuis longtemps saisi du problème. Aujourd'hui, la justice congolaise s'apprête même à organiser un procès à ce sujet.
Ces ONG sont en train de prêcher dans le désert. Parce que la justice congolaise est déjà saisie des vrais faits de la cause. Mais que même nous ne connaissons pas. Les faits qu'ils ont alignés dans leur rapport vont-ils faire partie des dossiers de la procédure pénale congolaise, oui ou non? La réponse est non.
Thierry Mungala, le ministre de la Communication, estime pour sa part que le gouvernement du Congo a fait son devoir.
Je constate avec regret que ce rapport de l'ONG Human Rights Watch est un rapport à charge. Parce que sur des affaires aussi graves, il me semble qu'à un moment donné, avant d'affirmer qu'il y a une sorte de léthargie ou d'inaction de l'État, il aurait été sain que cette ONG se rapprochât de l'État congolais sous toutes ses formes.
Nguela Ngoussou, Brazzaville, VOA Afrique.
Centrafrique, les débats sur la politique générale du gouvernement ont eu lieu ce jeudi au Parlement. Rappelons que mardi, le Premier ministre Simplice Mathieu Sarandji présentait le plan d'action de son gouvernement aux députés.
RCA toujours, retour sur l'incident meurtrier survenu dimanche après la victoire des Fauves face à l'Angola. Le casque bleu, auteur présumé, a finalement été remis à la MINUSCA pour poursuite judiciaire, d'après le gouvernement.
Les Chebab ont mené une attaque d'envergure dans le centre de la Somalie. Une base éthiopienne de la mission de l'Union africaine était la cible. Mais les deux camps avancent des bilans complètement différents. Idriss Fall.
Les Chebab ont revendiqué l'assaut contre la base d'Algan dans le centre de la Somalie. Ils ont affirmé avoir tué 60 soldats éthiopiens et perdu 16 des leurs. Addis Abeba rejette ce bilan, qualifié de mensonge, assurant que 101 djihadistes sont morts pendant l'attaque. De son côté, le gouvernement somalien avance le chiffre de 240 Chebab et 9 soldats de l'AMISOM sans préciser leur nationalité. L'attaque a commencé avec un kamikaze qui s'est fait exploser dans une voiture piégée pour démolir l'entrée de la base. L'explosion a été suivie d'intenses échanges de tirs Et c'est par ce même mode opératoire que les Shabab ont attaqué en janvier dernier une autre base de l'AMISOM, tuant plus de 100 soldats kenyans dans le sud de la Somalie. Les Shabab ont été chassés de Mogadiscio depuis août 2011, mais contrôlent toujours de vastes zones rurales. Ils mènent des opérations de guérilla et souvent des attentats suicides jusque dans la capitale.
Centrafrique, les débats sur la politique, plutôt parlons de l'Éthiopie. 88 enfants enlevés en avril par des hommes armés venus du Soudan du Sud ont été rendus à leurs familles dans la région frontalière de Gambela, c'est ce qu'annonce l'UNICEF. Les négociations se poursuivent pour faire libérer 58 autres enfants toujours captifs.
Conclave de l'opposition congolaise à Bruxelles, la participation au dialogue politique continue de diviser. Malgré l'appel du doyen Étienne Tshisekedi, une bonne partie de l'opposition rejette les tractations prévues par le président Joseph Kabila. On fait le point avec Eddie Sango.
L'opposition exige la libération des opposants. Elle précise qu'elle ne participera qu'à un dialogue dont la facilitation sera tenue par un panel élargi aux représentants de l'Union européenne, des États-Unis et de l'Organisation de la francophonie, les tout dans le respect de la Constitution. Un texte est en élaboration avant la clôture des travaux ce soir. L'opposition a en fait rejoint les vues de Étienne Tshisekedi, l'initiateur de ces assises. La veille, les leaders de l'UDPS avaient appelé à l'unité. Les travaux devraient définir la place qu'occupera le doyen Tshisekedi au sein de l'opposition. Il s'agissait de donner des garanties à ceux qui hésitent, a affirmé Olivier Kamitatou du G7. Vital Kamerhe et les MLC de Jean-Pierre Bemba sont les grands absents de cette rencontre qui se tient alors que les partis de Joseph Kabila, les PPRD, a récemment évoqué l'idée d'un référendum constitutionnel.
Lutte contre Ebola au Libéria, l'OMS et le gouvernement libérien indiquent que la dernière résurgence du virus est terminée. Cette annonce intervient 42 jours, deux fois la durée d'incubation du virus qui est de 21 jours, après le second test négatif sur le dernier patient confirmé.
Alex Tamba Brima, Sierra Leone, condamné pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, décédé au Rwanda où il purgeait une peine de 50 ans de prison. D'après le tribunal spécial résiduel pour la Sierra Leone, il est mort dans un hôpital des suites d'une maladie grave. Algérie, quatre islamistes armés ont été tués hier soir dans une zone montagneuse de la région de Médéa, au sud d'Alger. L'opération militaire est toujours en cours, indique le ministère de la Défense.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, retour sur l'attentat d'hier soir à Tel Aviv en Israël. Deux Palestiniens ont tué quatre personnes et fait cinq blessés, selon la police. L'apparent apaisement après des mois de violence est ainsi démenti. Le nouveau ministre de la Défense, Avigdor Lieberman, est à l'épreuve. John Linden.
C'est l'attentat le plus meurtrier perpétré par des Palestiniens contre des Israéliens depuis 2015. La riposte israélienne ne s'est pas fait attendre, car ses forces sont aussitôt entrées dans Yatta. 83 000 permis d'entrée délivrés à des Palestiniens de Cisjordanie ont été gelés. Le premier ministre Benjamin Netanyahou a réuni un conseil des ministres restreint. De nouvelles mesures pourraient être décidées. Cet attentat est un test pour le tout nouveau ministre de la Défense, Avigdor Lieberman, chargé de superviser l'action de l'armée dans les territoires. Les États-Unis, l'Union européenne, la France et l'ONU ont condamné l'attaque. La présidence palestinienne dit rejeter toute forme de violence contre des civils, tout en se gardant de condamner l'attentat. Le mouvement islamiste Hamas, qui contrôle la bande de Gaza, a pour sa part saluer une opération héroïque.
En Turquie, les militants du PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan, ont revendiqué l'attentat meurtrier de mercredi contre un poste de police dans la province de Mardin, dans le sud-est, et qui a fait 6 morts. L'attaque dans la petite ville de Midyat a également fait une trentaine de blessés. Environ 500 membres des forces de sécurité ont péri durant les affrontements entre rebelles kurdes et armées gouvernementales, tandis que 4 900 militants du PKK ont été tués, selon l'armée, en Turquie et dans le nord de l'Irak.
Alors que l'armée américaine montre sa force et sa flexibilité en Méditerranée orientale depuis une semaine avec son porte-avions Truman, la marine de guerre vient d'annoncer l'arrivée prochaine dans la région d'un bâtiment, de notre bâtiment, l'USS Dwight Eisenhower. Contrairement à ce que le Pentagone avait déclaré hier, il faudra attendre encore quelques jours. Et après 3 semaines d'activité conjointe, l'USS Harry Truman regagnera les États-Unis. Le renforcement de la présence militaire américaine en Méditerranée pourrait accroître la tension avec la Russie qui, a signalé un responsable du Pentagone, a également envoyé des navires de guerre dans la région.
Un citoyen américain qui a fui les États-Unis pour joindre les rangs des djihadistes du groupe État islamique est de retour dans son pays. Mohamed Jamal Quais devait comparaître cet après-midi devant un juge fédéral en Virginie.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. On passe à la page économique présentée ce soir par John Lennon.
Les vols entre la Libye et l'aéroport de Tunis-Carthage ont repris aujourd'hui après une interruption de plus de 6 mois pour des raisons de sécurité. C'est ce qu'a annoncé l'Office tunisien de l'aviation civile et des aéroports. D'un côté groupe, l'un des plus grands conglomérats africains a rejoint l'actionnariat de la Banque africaine d'import-export, Afreximbank. Des informations publiées hier par Afreximbank révèlent qu'Ali Dangote Group a conclu le processus d'adhésion au capital de la banque le 30 mai 2016 avec un investissement substantiel. Un vaste coup de filet mondial contre le trafic de faux médicaments a permis l'arrestation de 393 suspects et la saisie des millions de produits potentiellement dangereux, du matériel dentaire contrefait ou des équipements chirurgicaux illégaux d'une valeur estimée à 53 millions de dollars, a annoncé Interpol ce jeudi. Cette opération, la 9e du genre, baptisée Pangea, a rassemblé les polices de 193 pays.
On passe au sport avec Nicolas Pineau. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Morgan.
J-1 avant le début de l'Euro de football en France.
La pression monte pour le pays organisateur. Les Bleus affrontent ce vendredi en match d'ouverture la Roumanie au Stade de France à 19h, temps universel. La bande à Didier Deschamps espère l'emporter devant son public au Stade de France. Les derniers détails sur ce match avec notre correspondant à Paris, Christian Mpanzou.
Ça y est, la France va enfin débuter son Euro. Les Bleus lancent la compétition face à une équipe a priori largement à leur portée, la Roumanie au Stade de France. Après 3 semaines de préparation plutôt mouvementées sur le terrain et en dehors, Didier Deschamps a réussi tant bien que mal à trouver son équipe type. On devrait vraisemblablement retrouver Hugo Lloris, gardien de but et capitaine. Une défense à 4, Bakary Sagna latéral droit, Laurent Koscielny et Adil Rami dans l'axe, l'expérimenté Patrice Evra à gauche. Le point fort de cette équipe, le milieu de terrain, sera animé par Paul Pogba, Blaise Matuidi et très probablement N'Golo Kanté. En attaque, un léger doute subsiste, qui de Dimitri Payet ou Anthony Martial sera aligné côté gauche. Didier Deschamps est encore indécis, Antoine Griezmann sera sur l'aile droite et le très contesté Olivier Giroud dans l'axe. Tout un peuple retient son souffle avant le coup d'envoi d'un mois de football et espère évidemment une équipe de France victorieuse. Depuis Paris, Christian Mpanzou pour VOA Afrique.
Et dans l'autre rencontre du groupe A, samedi, l'Albanie et la Suisse seront opposées à Lens. Dans le groupe B, le choc du jour verra s'affronter l'Angleterre et la Russie, mais aussi le Pays de Galles à la Slovénie. Et puis à noter, Morgan, que le Portugal est enfin arrivé ce jeudi en France. L'équipe de Cristiano Ronaldo a établi son camp de base en région parisienne.
Retrouvez toutes les infos sur l'Euro 2016 sur notre site internet voafrique.com. La Copa América et la gifle brésilienne.
La Seleção a étrié Haïti, 7 buts à 1 hier soir à Orlando en Floride. Le petit poussé haïtien, 71e au classement mondial, qui découvre la Copa América, n'a pas fait trembler l'ogre brésilien. L'autre rencontre de la nuit, l'Équateur face au Pérou, match nul, 2 buts partout.
Toujours des bisbilles au sein du football béninois.
Le tribunal de Porto Novo vient de suspendre la tenue du congrès électif de la Fédération béninoise de football prévu ce vendredi. Cette décision va à l'encontre des exigences de la Fédération internationale de football. La FIFA qui réclamait l'élection d'un nouveau président de la FEBFOOT avant le 12 juin, date du match contre la Guinée équatoriale.
Basket, NBA, troisième match de la grande finale entre Golden State et Cleveland.
Les cavaliers de LeBron James ont ramené le score à 2-1 dans cette réédition de la finale 2015 qui se dispute au meilleur des 7 matchs. Cleveland a écrasé Golden State, le champion en titre, 120-90.
Merci Nicolas.
«
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Ravi d'être en votre compagnie, Morgane Guériac et Chérubin Gabi Dorsil. Place au dossier du jour.
Retour ce soir sur la réforme de la Constitution envisagée en Côte d'Ivoire. Le président ivoirien, Alassane Ouattara, a nommé début juin un comité d'experts chargé de mener la réflexion sur ce projet. La société civile ne veut pas être en reste. Elle a tenu ce qu'elle appelle une initiative citoyenne et fait des recommandations à l'issue de ses travaux. Magasikoura a joint le docteur Christophe Kwame, membre de la Convention de la société civile ivoirienne. Il explique que pour la société civile, la participation de toutes les couches sociales au processus est donc cruciale.
La Côte d'Ivoire vient de très loin. Une crise presque à 80% constitutionnelle qui a démarré depuis 1993, c'est-à-dire la succession d'Oufo-Boigny. Et en 2010, il y a eu une guerre civile. Et donc à partir de là, nous sommes dans une période de consolidation de la paix. Nous sommes dans une période de recherche de réconciliation nationale. Nous sommes dans une période de recherche de cohésion sociale. Et nous avons remarqué, en tant que société civile, que toutes les consultations nationales, qu'elles soient électives, comme l'élection présidentielle, législative, municipale et régionale, ou qu'elles soient des consultations à but de développement, comme le recensement général, il y a toujours un manque de pédagogie de tous les gouvernants qui sont passés.
En Afrique, généralement, quand on parle de réforme de la Constitution, on pense tout de suite au mandat présidentiel. Et vous recommandez que ce mandat soit limité à deux de façon consécutive. Il y a des voix en ce moment qui s'élèvent pour que ce mandat soit illimité ou amené jusqu'à trois, comme disent les chefs traditionnels.
Oui, on a entendu leurs propositions. C'est ça aussi la démocratie. Et vous avez vu que ce soit tous les 16 partis d'opposition. On était tous d'accord depuis le début des consultations qu'il fallait deux mandats et non renouvelables. Donc aujourd'hui, nous avons déjà un accord majoritaire des partis, de tous les partis d'opposition et de la société civile dans sa grande majorité. Nous sommes d'accord aujourd'hui sur deux mandats non renouvelables, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'intangibilité. Les chefs du village, nous ne savons pas pourquoi ils l'ont fait. Mais étant donné que c'est leur proposition, on respecte cette proposition et nous allons faire, dès la semaine qui suit, des contre-propositions avec la qualité de l'alternance comme élément de construction des institutions fortes en Afrique.
On reste sur cette recommandation. Vous insistez sur le mot « consécutif ». Est-ce à dire qu'après son mandat actuel, Alassane Ouattara ne se présente pas et que dans 10 ou 15 ans, il peut encore se représenter?
Nous, on n'a aucun problème. Je veux dire, si les populations ont la qualité ou la maturité démocratique qui est la nôtre, aujourd'hui, l'idée de faire une troisième république, si cette idée passe et que la future constitution consacre la troisième république, il va falloir faire des élections anticipées. Donc, nous n'y sommes pas encore. Nous y réfléchissons en ce sens qu'il ne sera pas question pour nous de faire des élections anticipées en 2017 pour qu'on reprenne tout à zéro.
Docteur Kwame Christophe, membre de la Convention de la société civile ivoirienne.
Nous partons maintenant dans l'est de la République démocratique du Congo, où le Bureau de coordination de l'action humanitaire de l'ONU, OCHA, tire la sonnette d'alarme au Nord Kivu. Plus de 1,5 million de personnes ont encore besoin d'assistance humanitaire. Et il faut dire aussi que l'insécurité, les infrastructures inadéquates bloquent l'accès des travailleurs humanitaires qui ont perdu un des leurs il y a moins de mois à l'ouest de Goma. Correspondance de Charlie Kasereka.
L'accès s'est rétréci à chaque fois qu'intervient un incident dans la zone d'intervention et cela en défaveur des près d'1,6 million personnes ayant encore besoin d'une aide humanitaire dans la province du Nord Kivu, souligne Mme Adèle Siri du Bureau de coordination de l'action humanitaire OCHA en RDC.
Ça va impacter sur la population. Il y a toujours les gens qui ont besoin d'aide et nous, on a besoin d'avoir un accès sans obstacle pour arriver fournisseurs de services, soit de santé, soit d'éducation.
Dans plusieurs zones d'intervention en RDC, passer à cause de l'insécurité ou soit au mauvais état de la route. Les activités humanitaires sont aux arrêts ou soit suspendues. Actuellement, les humanitaires réfléchissent sur des stratégies pour pallier au problème et croient à une issue favorable dans les prochains jours. Arthur Maurice, de l'ONG Première Urgence, l'a fait savoir lors d'un café de presse tenu à Goma par OCHA.
La première des stratégies est évidemment la qualité des activités des humanitaires. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça passe aussi par l'acceptation vis-à-vis des populations, de rentrer en interaction avec les autorités, avec les communautés locales pour expliquer notre action.
Ces acteurs humanitaires qui lient cette situation à un problème économique et au chômage de la jeunesse, ils refusent de payer une quelconque rançon pour les kidnappeurs, comme le dit ici Grégoire Brou.
Les organisations humanitaires ne payent pas, ne paieront jamais et n'ont jamais payé de rançon. Dans la plupart des cas, c'est les familles.
La population dans la région ne reste pas unanime sur cette inquiétude des acteurs humanitaires et les opinions divergent.
Je suis Patrick Mack, habitant de la province du Nord Kivu. Je ne crois pas que cela puisse décourager la communauté humanitaire à mener leur travail. Le moyen qui sont à leur disposition peuvent leur permettre pour accéder dans des zones difficiles, par exemple Walikale. Mais pour autant, je demanderai au gouvernement de sécuriser ces acteurs humanitaires parce qu'ils sont quand même en train de faire quelque chose à la place du gouvernement.
Je suis Stéphane Machoukano, habitant de Goma. Mais un pays ne peut pas vivre effectivement sous perfusion. Quand eux déjà commencent à se plaindre, maintenant que dire du paisible citoyen? C'est une sonnette d'alarme pour faire voir à ceux-là peut-être qui peuvent croire que c'est de la blague, parce que nous savons que l'État chez nous, il est devenu quasiment inexistant. Un pays ne peut pas vivre avec les aides humanitaires.
Notons qu'en 2015, 31 travailleurs humanitaires ont été kidnappés et 11 pour cette année 2016. Un cas de mort a été signalé il y a environ 4 semaines alors qu'ils traversaient une zone où l'armée régulière pour chasser un groupe armé dans la région de Mouesso. Charlie Kasereka, depuis Goma pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en RDC, sur la radio communautaire du Katanga, à Lubumbashi, à Kamina et à Likasi.
Le Tchad enverra 2000 militaires pour appuyer l'armée nigérienne dans le cadre de la lutte contre Boko Haram. Cette mesure intervient après une visite du président nigérien Mahamadou Issoufou à N'Djamena au lendemain d'une des plus meurtrières attaques de la secte islamiste contre le Niger dans la localité de Bosso. Une visite qui s'assimile donc à un appel au secours du Niger à son voisin. Quelques réactions à Niamey dans ce reportage de notre correspondant Abdulrazak Idrissa.
Pour certains citoyens, cette visite du président Issoufou Mahamadou pour demander l'appui de l'armée tchadienne n'est ni plus ni moins qu'un aveu d'un manque de confiance en notre propre capacité à nous défendre.
Question de confiance en notre propre capacité à nous défendre, je pense que ça, cet esprit n'a jamais existé. Et d'ailleurs, pas seulement pour nous défendre, en réalité, c'est pour toutes les choses que ce gouvernement n'a pas confiance en réalité aux Nigériens. C'est vrai, ça va choquer les gens, mais en vérité, ce gouvernement n'a pas confiance aux Nigériens sur tous les plans.
L'opposition politique n'est pas trop loin d'un tel sentiment. Ibrahim Hamidou est membre du bureau politique national du MNS de Nassara, la deuxième force politique de l'opposition parlementaire.
Je me suis senti humilié. Officiellement, le Niger n'est pas capable de se défendre face à une agression extérieure parce que Boko Haram vient nous trouver chez nous, nous agresse. Donc on ne peut pas se défendre, on court chercher de l'aide chez des voisins.
Pour vous donc, c'était de l'aide qu'il est parti demander?
Mais c'était très clair, ce n'est pas officieux, c'est officiel, c'est comme ça. La preuve, il semble que les colonnes tchadiennes sont en train de faire un mouvement sur le Bosso.
Boubacar Sabo du parti présidentiel estime lui que c'est juste une visite pour booster la force mixte mise en place depuis quelques mois.
Cette force multinationale, c'est elle qui tardait à être mise en branle et c'est pour ça que le président de la République a fait le déplacement.
Donc ce n'est pas un SOS que le président Issoufou est parti faire à Déby.
On ne peut pas parler d'un SOS, d'autant plus qu'ils sont convenus, les différents chefs d'État, de mettre en place cette force.
C'est juste seulement au lendemain de l'attaque de Bosso que le président est parti là-bas. Est-ce qu'il ne pouvait pas faire ça depuis longtemps?
Ça ne sert à rien de spéculer. Avec l'événement de Bosso, ça peut être l'élément déclencheur pour montrer qu'on ne va pas attendre les moyens de l'ONU ou de l'Union africaine pour mettre en branle cette force multinationale. C'est ça qui a amené le petit sommet ou le sommet Déby Issoufou Mahamadou.
Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique au Niger sur Enfani FM à Niamey, Zinder et Agadez et sur Radio Dalol FM à Dongondjouti.
présidentielle américaine, le sénateur du Vermont Bernie Sanders reste déterminé à poursuivre la course des primaires démocrates en dépit de sa défaite face à sa rivale Hillary Clinton. Le président américain Barack Obama, qui devrait annoncer son soutien pour Mme Clinton aujourd'hui, a reçu un peu plus tôt à la Maison-Blanche le candidat Sanders. Mais même après ce tête-à-tête, celui-ci a annoncé qu'il prendrait part à la primaire de Washington DC mardi prochain. Pour une analyse, Jacques Aristide a joint le professeur Mohamed Mbodge de Manhattanville College à New York.
Il pense qu'il est porteur d'un mouvement qui va changer les États-Unis, mais au moins le Parti démocrate à minima. Donc, quand on est animé d'une ferveur révolutionnaire, ce n'est pas facile, de lâcher prise. Deuxièmement, c'est un homme assez âgé et c'est certainement la dernière chance qu'il a de paraître sur la scène nationale. Et d'être soutenu par autant de jeunes personnes lui ont insufflé ce que je peux appeler une sorte d'énergie pour combattre jusqu'au bout. Et je pense que là aussi, il y a cette sorte de ferveur. Il ne peut pas laisser tomber les gens qui sont derrière lui. Et il va essayer coûte que coûte de faire en sorte que donc, les gens puissent à la limite même regretter qu'il n'ait pas été le vainqueur des primaires. Je pense que ce sont ces deux choses-là. Plutôt que ce que souvent les gens disent, qu'ils voudraient, disons, faire basculer la plateforme du Parti démocratique vers la gauche, je pense qu'il ne fait pas d'illusion là-dessus. Ce qu'on peut appeler les cadres ou l'establishment du Parti démocratique ne va pas du tout changer simplement parce que Bernie Sanders voudrait les forcer à le faire. Ils vont essayer de rédiger quelque chose qui puisse, l'amadouer. Et je ne pense pas qu'ils vont changer la plateforme simplement pour lui faire plaisir.
Après sa rencontre avec le président Obama tout à l'heure, Bernie Sanders maintient qu'il ira à la primaire de Washington DC. Le président qui a déclaré hier qu'il espérait que les démocrates trouvent une solution à leurs conflits internes. Pensez-vous que Bernie Sanders finira par se rallier à Hillary Clinton pour faire front commun face à Donald Trump?
Ah oui, tout à fait. Je pense qu'il ne peut pas se permettre d'être, celui qui va, comme Al Gore a été défait donc, par cette campagne persistante entre lui et Bush. Je pense que de ce point de vue-là, il ne veut pas prendre cette responsabilité. Donc, il va certainement se ranger, mais il veut convaincre les gens, et en particulier ceux qui le soutiennent si férocement, qu'il ne lâche pas facilement prise. Et puisqu'il a déjà dit à plusieurs reprises et dans différents forats qu'il va aller jusqu'au bout, il va aller jusqu'au bout.
Dans Washington Forum cette semaine, retour sur la disparition le 3 juin dernier du champion Mohamed Ali, né Cassius Clay. Nous reviendrons sur la légende de la boxe qui aura définitivement marqué son sport et au-delà, mais aussi sur l'homme, ses engagements et ses coups de gueule. Ses obsèques auront lieu vendredi avec un parterre de personnalités pour lui rendre un dernier hommage. Qui était Mohamed Ali? Quelles traces laisse-t-il dans le monde et en Afrique? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Retrouvez-moi dans Washington Forum. C'est ce jeudi à 19h, temps universel.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, African Music, les anciens et nouveaux morceaux africains. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
C'est la fin de cette édition, à la mise en onde de Georges Léonard Sagnot, à la console Nachouane Kali, présentation Morgane Guériac et Chérubin Gaby Dorcide.
Ainsi va le monde aujourd'hui. On maintient la conversation sur Facebook et n'oubliez pas de visiter notre site internet voafrique.com pour plus d'infos 24 sur 24.
Vous Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. Sur 99 FM Abidjan, à Brazzaville sur 101.9 FM, à Lomé 99.5 FM, 92.9 FM, Bahia, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.